tous tels que nous sommes unis ce soir, que la paix du Seigneur soit notre partage à tous. Le Seigneur sait te localiser, toi tu es, et surtout, notre état d'esprit est transparent devant notre Dieu. Il voit tout, nos dispositions, tout ce que nous pensons. Tout cela est entre ses mains. Nous allons inviter la présence de l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur Jésus disait « Sans moi, vous ne pouvez rien », en réfléchissant bien, quand on regarde tous les enseignements de Dieu depuis le livre de Genèse jusqu'au temps de Jésus, quand il prononça cette phrase, on peut comprendre tout simplement que le Seigneur Jésus nous a renvoyé encore une fois dans le jardin d'Eden quand l'homme se confiait à 100% en son Dieu et qu'il n'avait pas de stress, il avait toute la joie. Si la mort est entrée, la mort est entrée par la désobéissance. La mort est entrée parce qu'un jour Adam dit « Je vais moi-même choisir le bien et le mal. Dieu, tu es bon, mais je n'ai pas besoin de toi. » Cette façon de répondre à Dieu s'est prolongée de génération en génération. Au point où, aimant Dieu, ne connaissant pas Dieu, beaucoup se sont fait des images taillées pour, comme Dieu, on ne le voit pas, bon, l'homme fait Dieu. Alors on s'est trouvé avec des multitudes de diversités de dieux qui ne sont pourtant pas de Dieu. Mais Dieu ne juge pas le monde à cause de cela. Il a pris tout ça comme c'était sa faute. Il a pris la chair, il nous a visités, et il a fait de Jésus malédiction. Toutes les malédictions de cette humanité, il a porté cela, et cela lui a conduit à la croix. Les Écritures disent et disent, « Maudit soit quiconque qui soit pendu au bois. » Et Jésus le fut, à cause de notre péché. Il l'a porté, il devait payer le prix. Et par son sang coulé, nous avons été acquittés. Non pas que Dieu a effacé la loi, la loi réclamait son existence, le verdict de la loi est allé jusqu'au bout. Le péché se paye par le sang, et Jésus l'a payé par le sang. Nous sommes là pas comme ceux qui seulement pardonnaient, non, ce n'est pas cela. Nous sommes là comme ceux qui ont été condamnés et dont nous avons payé ce qu'il nous fallait. Nous avons payé par le prix du sang, sauf à la différence, le péché est entré par un homme, la grâce est entrée aussi par un sang, le Fils de Dieu vivant. Ainsi, par Adam, nous avons reçu la mort, et par Jésus-Christ, nous recevons la résurrection et la nouvelle vie. Si nous avons compris cela, toutes ces choses-là, si nous avons compris ça, on peut facilement comprendre que, voilà, Dieu nous donne vraiment ce qu'on dit, la seconde grâce. Personne ne dira maintenant, « Ah, Adam, il était faible, pourquoi il s'est laissé tromper par sa femme ?» Aujourd'hui, nous avons la même position qu'avait Adam dans le jardin avant son péché. Nous avons la même parole que Adam se trouvait dans le jardin d'Adam avant de pécher. Car aujourd'hui, le Seigneur Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Et qu'est-ce qu'il veut dire? « Laisse-moi diriger ta vie pour choisir le bien et le mal pour toi. » C'est la même chose. C'est là où nous sommes. C'est pourquoi ceux qui aujourd'hui rejeteraient pour la deuxième fois, pour commettre pour la deuxième fois le péché originel, et le répéter par deux fois, cette fois-ci expressément, malgré le sang de Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a fait, c'est une condamnation double que nous avons. D'abord, il y aura le premier péché, lequel le péché héréditaire du péché originel, qui ne sera jamais pardonné, parce que Dieu a refusé la parole de Christ. Et en plus de ça, sous le second commandement, tu vas pécher pour la deuxième fois, cette fois-ci expressément. Nous pouvons nous imaginer combien devant Dieu cela peut nous amener à quel type de culpabilité devant le Seigneur. Mais nous ne sommes pas de cela. Quand nous disons cela, parce qu'il faut quand même des mots pour décrire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est comme ça que les choses sont. Mais nous sommes ceux qui ont tendu l'oreille, non pas par notre force. Le Seigneur nous a donné sagesse et intelligence pour incliner notre cœur vers lui. Et c'est pourquoi nous sommes venus là. C'est pourquoi nous l'approchons. Nous avons donc cette occasion ce soir, et j'aurais voulu avec vous, si vous me permettez, que nous puissions parler et partager ce message ensemble avec vous. Le danger de la religion qui continue à véhiculer dans ce monde, dont beaucoup de chrétiens se trompent très souvent et ne sachant plus faire la différence entre religion et la spiritualité. Car quand on regarde l'immensité du monde, quand nous voyons, nous savons dire cela, une des premières preuves que ces choses existent, parce qu'il n'y a pas qu'une église, il y en a plusieurs maintenant. S'il y a un faux, il peut y en avoir plusieurs aussi. Ben, la vérité, il n'y en a qu'une. Comment ça se fait que Dieu nous donne une vérité et qu'aujourd'hui, on a autant d'interprétations, de différentes façons de voir, d'interpréter la parole de Dieu? L'Apocalypse nous a souvent prévenu pour cela que nous devons faire attention. Le Seigneur lui-même disait, viendra un jour vers la fin, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, Seigneur » et il lui dira « Je ne vous ai jamais connu ». Cette parole est adressée non aux incroyants, mais ils vont s'adresser à ceux qui disent « Seigneur, nous alors, dans ces cas, c'est pour nous ». Le livre de Deutéronome, au chapitre 8, et verset 2. Ici, Dieu parle au peuple d'Israël. Après un certain temps, il ne les a pas dit ça avant, quand ils étaient esclaves en Égypte. Il ne les avait pas dit cela pendant qu'ils sortaient. Mais il les avait dit cela quand ils étaient déjà libres et qu'ils se trouvaient dans la liberté. Maintenant, un jour, il va venir leur rappeler ce qu'il avait dit et ce qu'il avait promis. Il y avait donc la preuve de sa parole, l'accomplissement de sa parole, ce qui concerne la liberté qu'il les avait promis au travers de la main de Moïse, pour venir après parler de ce que nous allons lire maintenant, au nom de Jésus. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Rappelle-toi. Là, la marche dans le désert prend tout son sens. C'est vrai, après avoir quitté l'Égypte, la terre promise pouvait se trouver aussi juste là, après la traversée d'Égypte, et là, voilà la terre promise. Non, il y avait encore une marche à faire, une marche à guerre. Et cette marche qui a duré 40 ans, non pas parce qu'il fallait 40 ans pour marcher, tout simplement parce que l'incrédulité, les doutes qu'il présentait devant Dieu, Dieu a fait en sorte qu'il tourne encore, jusqu'à ce qu'il va voir que maintenant, ça va. Il y avait donc quelque chose que Dieu cherchait dans le cœur de ces nations sauvées, la disposition de leur cœur, c'est-à-dire la manière dont ils sont prêts à se confier à Dieu. Non pas seulement, on te demande cela comme ça, mais Dieu a fait ceci. Dieu m'a libéré ici, Dieu m'a protégé là, Dieu m'a protégé. Et pendant toute une vie, quelque part, et le Seigneur dit, qu'est-ce que tu penses de cela? Après tout ce que tu as vu là, qu'est-ce que tu dis de moi? Voilà ce que cela signifie. Et cette parole n'a pas changé. Cette parole est à nous. Si nous présentons une vie douteuse, si nous sommes quelquefois un peu dans la religion et aussi dans les spirituels, ou quelquefois nous suivons les coutumes religieuses, les pratiques religieuses, c'est-à-dire qui se basent tout simplement à la lettre et non pas à la pratique. Quand la parole de Dieu n'est pas une vie, mais telle est une histoire que nous aurions entendue et que nous notons cela dans des petits carnets, dans le feuille de papier que nous glissons dans la Bible. Et aussi, même quand on croit que c'est la Bible, oui, c'est cela, et que dans ton chevet, tu mets ta tête sur la Bible, et des choses comme ça. Alors, quand on n'est pas prêt à montrer à Dieu qu'on a compris la parole, c'est vrai, notre désert pourra se prolonger. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que Dieu veut et les dispositions de ton cœur. Malgré tout, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et finalement, il y en a d'autres qui n'ont pas compris et ils font du désert leur vie. Ils pensent que dans le monde, ben, on est dans le désert, c'est des souffrances continuelles, de tout ça, et jamais tu ne comprends la paix de Dieu. Jamais tu n'as saisi le sens du désert pour dire que Dieu cherche avant tout de connaître quelles sont mes dispositions envers lui. Est-ce que tu garderais ou ne garderais pas? Mais si dans ta vie, tu ne gardes pas, tantôt tu gardes, tantôt tu ne gardes pas, tu es devant Dieu, tu le mets en doute, tu es tiède. On ne peut pas dire si tu es chaud ou tu es froid, parce que tu n'as pas de position. Aujourd'hui, cette semaine, ça se passe bien, la semaine prochaine, on te voit plonger. Et tout cela remonte vers Dieu. Et c'est au travers de cela qu'il regarde les dispositions de votre cœur. C'est au travers de cela. Et ensuite, s'il le faut, Dieu prolongera le désert. Parce que pour t'accepter, il faut que les dispositions, que le cœur, que la confession, que l'amour dont il attend de toi soient remplis, soient exactement tels qu'il attend. C'est comme ça. Comme ce qu'il nous dit, par exemple, dans le livre de Corinthiens 5:14, qui nous dit, voilà, puisque Jésus-Christ a donné de sa vie pour moi, j'ai compris cela. Moi aussi, je donne ma vie pour Jésus-Christ. Et on sous-entend par là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vivra. C'est-à-dire, ce n'est plus mes recommandations, mes ambitions, mes objectifs que je poursuivrai, mais je me laisserai diriger par Dieu comme des instruments dans sa main, en me mettant à sa disposition. En me mettant dans sa disposition, Dieu aura compris alors mes dispositions. C'est alors que le désert peut passer. Et en ce moment-là, il peut s'approcher de toi et te dire, écoute mon fils, marchons maintenant. Tu entendras la voix de Dieu. Tu comprendras le parler de Dieu, son langage. Tu vas lire même ses pensées. Tu peux entrer en profondeur de ses pensées parce qu'il nous a permis cela par l'Esprit de sonder même le profondeur de Dieu. Et en ce moment, Dieu peut dire, je t'appelle plus serviteur. Tu es passé du serviteur à l'amitié et de l'amitié au stade de fils. C'est-à-dire, tu portes mon ADN. Tu es mon sang. Tu es mon fils. Voilà ce que beaucoup d'églises n'expliquent pas. Si quelqu'un veut t'empêcher d'aller plus loin, il te suffit qu'il commence à te dire, voilà, tu vas réussir dans ton travail, tu vas te marier, tu vas faire ceci, tu auras la belle vie. Et tout cela, tout est à nous, mais tout n'est pas prioritaire. Mais pour ne pas être forcément, obligatoirement que ce soit là, non, à chaque chose à son temps, on n'accueille pas de fruits dans toutes les saisons et tous les arbres ne donnent pas de fruits au même moment. Toutes ces choses, Dieu a préparé ça déjà d'avance. Voilà pourquoi Dieu dit, je vous ai envoyé là, et si je vous garde là pour voir les dispositions de votre cœur. Quand il dit disposition, il y aura de bons moments, il y a le moment de pluie, le moment de froid, le moment de chaud, le moment de famine, et quelles seront vos dispositions après tout cela. Au Deutéronome, chapitre 31, verset 21, il dit ceci. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la prospérité aura dans la bouche déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet cette disposition qui déjà se manifeste aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que je jurais de lui donner. Le Seigneur a dit, de la manière dont vous marchez là, je vois des gens, je ne t'ai pas encore fait entrer là où tu devais entrer. Je n'étais pas encore béni comme il faut bénir. Mais déjà, rien que pour cette odeur, un peu le nuance des petits signes que j'ai fait pour toi, je vois déjà des dispositions que tu vas m'abandonner. Il y a des personnes, il y a beaucoup de chrétiens que jamais il ne faudra pas qu'ils soient riches parce que certainement s'ils prennent l'argent dans cette façon-là, la manière dont Dieu voit obtenir l'argent, c'est aussi le perdre. Alors si c'est le cas, alors ce n'est pas bien. David a dit quelque part, je ne voudrais pas être riche au point où ma richesse me perde finalement. Mais je ne voudrais pas être pauvre non plus pour que par ma pauvreté, que ton nom soit insulté parce que je t'appartiens. Et l'apôtre Paul va dire, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la richesse. En fait, tout cela, ce n'est pas ça les objectifs. Ce qu'il faut, je sais vivre avec ce que le Seigneur me donne. Quand il y a en abondance, je vivrai dans l'abondance. Et quand il n'y en a pas, je sais vivre dans le manquement avec toute ma joie, sans toutefois que quelque chose puisse troubler mes dispositions avant mon Dieu. Et c'est comme ça, au fait, qu'il y a le but, c'est ça. Et quand je dis la religion, parce que je médite et je réfléchis beaucoup. Je réfléchis pour essayer de me mettre à la place de ceux qui voient les choses de cette manière, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui manque? Nous avons les Écritures pour un moment. Les Écritures sont indispensables. Parce que par les Écritures, que Dieu lui-même a ordonné de mettre en écrit pour notre instruction. Mais l'instruction, c'est pour un moment, le temps de l'ignorance. Mais les Écritures sont là pour nous conduire vers Jésus-Christ. Si du moins nous l'avons compris. Mais si nous prenons comme les lettres que nous lisons deviennent le centre de notre vie, le centre de notre espérance. Alors là, nous nous sommes trompés, car un livre est un livre. Un livre est un livre. Mais celui qui comprend le sens de la lettre, il ferait quoi? C'est-à-dire, c'est là, ces livres, ces lettres, tout, de Genèse à l'Apocalypse, me parle de quelqu'un, Jésus-Christ. Mais une fois que j'ai compris ça, je ferme ma Bible, je la pose à terre, je lève mes mains, je m'agenouille, je dis, Seigneur, je viens de lire ton histoire. Je viens de comprendre tout ce que tu as fait à mon égard. Je sais que tu m'écoutes et que tu m'exauces. Maintenant, je t'invite dans ma vie. Et alors, à ce moment-là, tu peux demander pardon. Et non pas seulement ça, que le Saint-Esprit te conduise pour te faire faire ce que tu ne pouvais pas faire. Que tu obéisses à des choses que tu ne pouvais pas obéir. Qui te donne les capacités d'obéir à ce que tu te disais impossible. Tu pouvais naître 10 fois. Et 10 fois, tu aurais gardé cette décision-là. Jamais, jamais, jamais. Mais quand vient la parole de Dieu, la parole de la différence, la parole supérieure, les enseignements célestes, puissance de Dieu, Dieu qui nous donne paix et joie, le secret de la vie éternelle. Quand cela arrive, alors tu déposes tes armes. C'est le sens même du sabbat. Le livre d'Hébreux nous parle du sabbat, non pas de ceux qui sont en train d'interpréter aujourd'hui comme des sabbatistes, parce qu'ils pensent que, oui, le septième jour, il ne faut pas travailler, continuer jusqu'à aujourd'hui. Non, le sabbat a un sens. Le livre d'Hébreux au chapitre 4, verset 7, quand tu lis là, tu verras, entrons dans les sabbats de Dieu. Ça veut dire, arrête ton combat, arrête tes armes là, arrête tout ce que tu es en train de faire parce que pour toi, mon problème, c'est mon problème et que je dois chercher ma solution. Ça, Dieu ne veut pas entendre là. Parce que si tu te dis comme ça, le sang de Jésus-Christ ne te servira à rien. Alors Jésus se retrouve sur la croix pour dire, mais finalement, pourquoi j'ai été crucifié? J'ai fait ça pour toi, pour que je vive en toi et que je prenne ton fardeau. Maintenant, tu me mets à l'écart. Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est un peu cela. Exactement plutôt que cela. Mais si nous avons accepté, si nous disons que nous sommes de Dieu et que nous avons accepté le Christ, à partir de ce moment, disons-le, si c'était moi, j'allais faire comme ça ou comme si. Mais aujourd'hui, je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ces paroles qui disent dans le livre de Romains 8 au verset 9 que je dis toujours, pour vous, vous ne marchez pas selon l'esprit de ce monde, non pas selon les coutumes de ce monde. Ce n'est pas une tradition que tu as eu de tes parents. Ce n'est pas une propre interprétation dont tu t'es forgé un certain caractère dans le monde pour vivre selon toi. C'est ce caractère qui t'a convaincu et tu t'es dit que c'est le bon. C'est comme ça que je vais m'en sortir. Tu as peut-être raison, il faut trouver quand même une solution. Mais Dieu a tout disqualifié, tout cela. La sagesse de l'homme, quoi qu'elle soit, elle paraisse devant Dieu comme une folie. Deviens donc fou devant le monde et que tu sois sage devant Dieu en acceptant Jésus-Christ comme celui qui te guide. C'est cela que cela signifie. Alors, je ne marcherai pas en religion. Oui, la lettre, je ne marcherai pas par la lettre pour dire « la lettre doit me conduire en Christ ». Mais la religion m'égare parce que je ne cherche plus la gloire de Dieu. Ceux qui pratiquent la religion veulent être connus, être acclamés. Alors il nous faut une différence. Ils vont s'habiller autrement, de grandes croix sur la croix, de chercher la première place, d'être vu pour être acclamé. Tu voles la gloire de Dieu, tu ne t'appartiens pas, tu es nul. En faisant cela, ou en demandant des autres à faire ça, tu es très mauvais serviteur de Dieu. Mais si nous nous humilions, comme je venais de dire dans le Romains 8, 9, qu'est-ce qu'il dit? Pour vous, vous ne vivez pas selon l'esprit de ce monde. Si du moins, nous pouvons supposer que tu as l'esprit de Dieu. Comme beaucoup le disent, j'ai l'esprit de Dieu. Oui, mais où est le caractère de Christ en toi? Où est l'application? Quelles sont les dispositions de ton cœur aujourd'hui face à la parole qui t'invite? Tu te dis Christ, tu te dis de Christ, tu te dis chrétien, tu te dis disciple. Tu te dis, tu portes tout son nom-là. Mais où sont les actes qui accompagnent cette affirmation, cette confession dont tu le dis, où sont les actes? Non pas pour être vu, parce que ce serait religieux, mais les actes que tu poses en cachette, que Dieu seul connaît et que ta conscience est témoin, juge de toi. Es-tu fier de toi-même, de ta conscience? Est-ce que tu peux dire, oui, j'ai la paix? Si tu es fier dans toi-même, je sais aussi, je peux dire, tu as la joie, tu as la vie, parce que le Seigneur est avec toi. La véritable vie, c'est celle que nous adoptons après avoir entendu la parole de Dieu. Alors cela devient maintenant une intimité avec le Seigneur, un secret. Et le Seigneur veut vivre comme ça avec chacun de nous. Il te connaît, il connaît ta vie, il connaît tes commencements, il connaît tout, il connaît tout. Regarde ici, parle au peuple d'Israël. Je savais déjà, avant même que je vous donne la terre que je vous ai promise, moi je vois déjà quelles sont vos dispositions, que vous allez vous perdre. Est-ce que ce n'est pas cela qui a été fait? Regarde aujourd'hui les Juifs isolés là, face au mur. Et nous qui étions éloignés aujourd'hui, nous venons par le Saint-Esprit et nous sommes en train de bénéficier de cette grâce. Le mystère de la justice de Dieu. Oui, le retour viendra, mais à la fin, quand tous ceux qui étaient éloignés seront réunis, maintenant ce sera le tour de l'Israël à ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sera le retour d'être sauvé. Quelle conclusion que je peux tirer dans tout cela? Je parlais de la religion. Je parlais de la disposition du cœur. Et je parlais de la vie véritable de Christ qui peut nous utiliser comme des instruments de sa justice. Vivre, mais pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. Je parlais de ça. Et je disais, j'ai mis un peu là l'accent, le point de ce message, le point le plus culminant de tout cela, c'est que la religion avoisine très souvent la spiritualité au point où on peut facilement se tromper. Quand la religion cherche surtout sa propre gloire, sans qu'on le dise, mais on le voit et on le sent. Mais tandis que c'est dans l'humilité, mais dans la consécration. La religion n'a pas de consécration, mais dans la consécration spirituelle, c'est-à-dire se mettre au service de Dieu et que tu sois obéissant sans jamais attrister le Saint-Esprit. C'est là, c'est vrai, c'est là. Parce que si nous nous mettons là, c'est déjà une bonne promesse. Oui, notre désert peut accourter aussi, parce que Dieu cherche à comprendre nos dispositions. Il nous met dans ce preuve, même pas toute la vie. Il y a un temps pour cela. Abraham n'est pas passé de ce preuve, mais un jour, Dieu lui a dit, « Maintenant, je sais. » Et une nouvelle étape a commencé avec Dieu. Plus jamais il y avait de ce preuve. Il arrivera à tout ça, toutes ces choses vont disparaître, parce que le Seigneur dirait tout simplement, « Passons aux choses sérieuses. Maintenant, je sais que tu es fort. Je te compris. Je vis ton cœur. Je vis la manière dont tu m'écoutes. Je vis avec quel sérieux tu es. Je vis ta ponctualité à la prière. Je vis comment tu luttes pour éloigner ce qui n'est pas. Je vis. Maintenant, je sais. Mais quoi encore? Passons dans les choses sérieuses. » Et là, il va dire, « Je n'ai que toi dans ta famille. » Est-ce que tu le savais? J'ai envie d'entendre toute la famille. Je n'ai personne. Je n'ai que toi. Alors, il peut commencer un dialogue. Je n'ai que toi dans ton service. Tu vois les autres qui sont là, ils sont aussi à moi. Je leur souhaitais tant qu'ils soient sauvés, mais là, je n'ai personne. Regarde, tous ne me connaissent pas, mais toi, je me suis fait connaître à toi. Alors, je vais te dire que toi, tu témoignes de moi. Il va te dire, je n'ai que toi. Maintenant, je veux que tu ailles dans tel endroit. Je veux que tu prennes ta famille, que tu te déplaces, tu vas dans telle ville. Tout cela, tu commences à écouter cela. C'est ça, maintenant, les choses commencent. Des choses sérieuses. Et c'est là où maintenant tu commences à construire dans le royaume des cieux tout ton trésor, tout ce que tu gagnes sera gardé dans les banques des cieux. Ici, on peut te voir comme ça, mais tu es riche dans le Seigneur. Tu vivras, tu seras ressaisi de la vie et rien ne pourra te toucher. Et quiconque qui se livrera contre quoi, en quoi que ce soit, malheur à lui, parce qu'il va tomber sous ton pouvoir. Et tout ce qu'il aurait voulu que ça t'arrive, ça lui arriverait à lui-même. Voilà là où nous sommes. Avec tout cela, comment je peux terminer ça? Je termine pour nous dire, nous avons une grâce. Parce que le Seigneur t'aime là où toi tu es. Il t'aime, laisse-moi te dire ça. Dieu t'aime d'un amour clair, transparent, honnête. Il t'aime comme un trésor qu'il aime bien. Tout ce qu'il a fait sur la croix, c'est pour chacun de nous. Et s'il ne voulait pas, tu ne serais même pas là pour écouter ce message. Tu ne serais pas là. Mais si tu l'écoutes, c'est pour une prise de conscience. Et si là, si tu te dis, j'ai déjà entendu ça. Oui, bien sûr. Depuis la première fois que tu as entendu, la deuxième fois que tu as entendu, troisième, peut-être dixième fois. As-tu déjà levé le doigt pour dire, je vivrai cette parole. Vivre cette parole, tout ce que j'ai entendu là, c'est ma vie. Est-ce que tu as déjà pris des dispositions pour cela? C'est ça, au fait. La parole de Dieu dit, parle, enseigne, parle avec douceur. Tu parles avec douceur. Quoi que ce soit, si la parole est un peu rude, c'est normal, parce que c'est la vérité. Quand on dit la vérité, on conteste, on dit, on crie, on parle, comme le Seigneur parlait avec beaucoup d'autorité. Mais ce n'est pas pour nous accuser, ce n'est pas pour nous punir, non. C'est pour que nous prenions au sérieux ce qui s'est dit et que nous disions, oui Seigneur, merci. Et c'est ce que je veux vous demander maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci au Dieu d'amour. Merci pour tes enfants que toi tu envoies vers moi. Je les aime et je sais que tu les aimes. C'est pourquoi je parle. Seigneur, les temps sont mauvais. Chaque jour qui passe, Seigneur, je ne sais pas à quelle enjambée nous faisons pour aller vers toi. Nous avons nos horloges, mais toi, tu as une autre horloge. Personne ne sait ce que toi, tu as. Mais nous savons seulement, Seigneur, les signes sont déjà là. C'est un peu comme dans l'avion, dès qu'on approche le point d'arrivée, il commence à baisser, l'altitude pour s'abaisser. Et là, nous comprenons, avant longtemps, nous allons voir l'aéroport. Maintenant, avec tous les signes, Seigneur, oui, le point d'arrivée est déjà là. Jésus-Christ, Maranatha, levez vos mains là où vous êtes. Je t'invoque au Père du ciel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, par la foi, tous ceux qui se sont réunis ici, ensemble, pour écouter ce message, et tous ceux qui prient quelque part, partout dans cette planète, en ce moment, évoquant le nom de Jésus-Christ, pour chercher la sanctification, la pureté, et montrer devant toi notre disposition de pouvoir nous mettre à tes services. Seigneur, je leur bénis à partir de ce moment. S'il y a une faiblesse, s'il y a une capacité quelconque spirituelle, s'il y a un blocage, s'il y a une opposition quelconque venant de la part du diable, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je proclame la liberté, que les liens se brisent, les chaînes soient brisées, qu'ils obtiennent cette liberté. Touche chacun, Seigneur. Et ceux qui méditent pour cette parole, reviens Seigneur, mets ton échelle là où il dort, à leur chevet, qui aille de monter, de descendre, le service des anges se fasse à leur chevet, là où ils dorment, et inspire l'air, parle l'air Seigneur, étonne l'air, change leur vie Jésus, change leur vie par ton sang. C'est au nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier, à nous incliner ici devant lui, à la gloire de notre Père. Oui, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez donc tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de notre Seigneur soit le partage ce soir. Je vous aime tous. Je vous aime tellement. Au nom de Jésus.